RFI, il est 15h30 à Téhéran, 14h à Paris, midi en temps universel. Et le grand journal international, c'est avec vous, Charlotte Hidrak, bonjour.
Bonjour Alban Le Prince, bonjour à toutes et à tous. Israël et l'Iran ne savent pas ce qu'ils foutent. Déclaration, je cite, de Donald Trump, visiblement énervé, qui a confirmé des violations du cessez-le-feu entre les deux pays. Mais le président américain vient d'assurer que cette trêve est désormais en vigueur. C'est encore assez confus. L'État hébreu, de son côté, affirme avoir atteint ses objectifs de guerre. À Téhéran, les gardiens de la révolution disent avoir infligé une leçon à Israël après 12 jours de confrontation qui a fait au moins 610 morts en Iran. C'est le dernier bilan. Dossier complet dans un petit instant.
RFI midi.
À suivre aussi, l'Ukraine dénonce un message de terreur de Moscou avant le sommet de l'OTAN qui va s'ouvrir là aux Pays-Bas. L'Ukraine frappée par un bombardement russe meurtrier à Dnipro. Et puis ne pas baisser les bras en France. Le Premier ministre tente de sauver les concertations sur les retraites. Après un constat d'échec au conclave, François Bayrou reçoit séparément les organisations syndicales puis patronales.
Quelques heures à peine après l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, les deux pays ont chacun violé la trêve.
C'est ce que dit le président américain après ce cessez-le-feu annoncé à la surprise générale par Donald Trump. Et c'est le même président qui confirme la reprise des échanges de tirs.
Je suis mécontent vis-à-vis d'Israël. Ces gars doivent vraiment se calmer. Je suis aussi énervé contre l'Iran. En gros, on a deux pays qui se battent depuis tellement longtemps et tellement fort qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent.
Le président américain qui vient d'écrire sur son réseau social, Israël ne va pas attaquer l'Iran. Le cessez-le-feu est désormais en vigueur. La situation est donc encore assez confuse sur le terrain, Paul Loncin-Spinelli. Mais on le voit, hein, Donald Trump fait pression après avoir constaté des échanges de tirs ces dernières heures.
Oui, alors Donald Trump n'a pas vraiment donné plus de précisions à propos de ces nouvelles frappes réciproques qu'il a dénoncées, mais ce matin, l'Iran de son côté avait déploré 3 salves de missiles tirés par Israël après l'annonce de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu par le président américain. Un peu plus tard dans la matinée, les sirènes d'alerte ont une nouvelle fois retenti dans le nord de l'État hébreu, et même si les autorités iraniennes ont nié avoir mené de nouvelles frappes, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a promis que son pays allait riposter avec force.
Et là, on a tendance à savoir plus, mais des médias iraniens rapportent des explosions dans le nord de l'Iran. Cette rechute, Paul Loncin-Spinelli, ce n'est pas complètement une surprise.
Oui, les deux ennemis s'étaient certes engagés auprès des États-Unis, mais avec des réserves. Le Conseil de sécurité nationale iranien a affirmé ce matin n'avoir aucune confiance en Israël et donc garde le doigt sur la gâchette pour une riposte défensive. L'armée israélienne, elle aussi, avait prévenu, le danger persiste. En Israël, d'ailleurs, pas sûr que la trêve fasse réellement consensus. Selon la BBC, certains membres du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou n'avaient pas donné leur feu vert. Aucun accord écrit n'a été conclu, comme l'a rappelé à RFI Martin Quincey, spécialiste de la politique américaine au Moyen-Orient. Selon lui, Donald Trump avait flairé une opportunité d'annoncer cette trêve après une réponse iranienne aux frappes américaines hier, calibrée pour éviter l'escalade. Si des attaques entre l'Iran et Israël reprennent donc avec une moindre intensité, ce n'est donc pas si surprenant.
Paul Loncin-Spinelli, cette confrontation qui a fait au moins 610 morts en Iran depuis le 13 juin, c'est le nouveau bilan du ministère iranien de la Santé. En Israël, 4 personnes sont encore décédées la nuit dernière dans une frappe iranienne à Beersheva. C'est dans le sud de l'État hébreu où un immeuble d'habitation a été détruit. Reportage sur place, signé Nicolas Rocard.
Un immeuble d'habitation frappé de plein fouet par un missile balistique. Le cratère béant laisse imaginer la puissance de l'impact. Parmi les 4 personnes mortes, certaines se trouvaient dans des abris sécurisés. Yossi Lando, chef secouriste.
Je peux vous dire que j'ai sorti 3 corps qui se trouvaient tous dans des abris. Une femme âgée a été frappée par une partie du missile et 2 autres personnes étaient aussi dans leurs abris dans la maison d'à côté et ont été tuées.
Le souffle de la déflagration a fait exploser les vitres des immeubles et voitures aux alentours. Meir se trouvait dans son abri à quelques centaines de mètres.
On dormait, 5 heures du matin, on a eu l'alerte et puis tous les vitres sont explosés, les volets, la maison elle a tremblé. Bon, on a sursauté, ça fait peur quand même, hein. Oui bien sûr, ça fait très très peur.
Il se dit usé par la guerre et les frappes incessantes.
Ils nous frappent, nous on rompt. Nous on les frappe, eux ils nous rompent. Ça se termine jamais. Il faut vraiment respecter le cessez-le-feu et arrêter la guerre.
Beersheba paye un prix lourd depuis le début de la guerre contre l'Iran. Plusieurs impacts ont touché la ville, dont un hôpital. Dans la bande de Gaza, à une trentaine de kilomètres, une grande partie des infrastructures de santé ont été détruites. La défense civile de Gaza a annoncé qu'une cinquantaine de personnes sont mortes ce mardi sous les balles israéliennes en allant chercher de l'aide humanitaire. Nicolas Roca, Beersheba, RFI.
Et ces scènes meurtrières se répètent à proximité des centres de distribution alimentaire dans la bande de Gaza. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, affirme aujourd'hui que le système d'aide mis en place est une abomination. Et après l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, qui, on l'a compris, reste très précaire, le chef de l'opposition israélienne a appelé à mettre fin également aux opérations à Gaza. Il est temps d'en finir là-bas aussi, écrit Yair Lapid.
On attend donc de voir quelle sera la suite de cette trêve. En tout cas, son annonce a eu un effet immédiat sur les marchés.
Oui, les prix du pétrole ont dégringolé la nuit dernière. Le baril a chuté de plus de 7%. Les cours avaient déjà dévissé de plus de 7% hier. Pour Antoine Andréani, directeur de la recherche chez le courtier XTB France, les marchés ne croient pas au scénario d'une escalade militaire.
Le prix du pétrole a vraiment chuté. Ça veut dire que le marché croit vraiment que ça va se calmer au Moyen-Orient. Il y a plusieurs raisons qui expliquent en fait cette résilience. Le premier, c'est que le marché connaît Trump. Il sait que c'est un homme qui va mettre beaucoup de pression au début, mais que par la suite, il va avoir un compromis. Et le marché s'est habitué à cette psychologie de Trump, surtout que le marché a déjà, entre guillemets, joué à se faire peur, notamment début avril avec les taxes douanières. Et donc, voilà, le marché a une mémoire et il se souvient de ça, d'autant plus que, voilà, il y a des éléments comme l'absence de dommages collatéraux sur les infrastructures pétrolières, des attaques vraiment très, très ciblées, l'Iran qui évacue les sites nucléaires bien en amont. Tout ça mis ensemble fait que le marché est très résilient. On va voir comment ça va se développer dans les prochains jours, prochaines semaines. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Trump, ça y est, il a choisi le deal, il veut faire la paix et il veut que ça s'arrange.
Analyse d'Antoine Andréani, propos recueillis par Anne Verdaguer, évolution de la situation à suivre bien sûr sur nos antennes et sur RFI.fr.
Et avec notre invité dans quelques minutes, après le journal des sports, ce sera Jean-Loup Samane. Il est expert associé à l'Institut Montaigne, chercheur senior à l'Institut Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour, spécialiste des pays du Golfe. La situation au Moyen-Orient qui sera sans doute évoquée au sommet de l'OTAN. Il s'ouvre aujourd'hui aux Pays-Bas, mais ce ne sera pas le thème principal du rendez-vous.
L'Alliance Atlantique va engager une hausse spectaculaire de ses dépenses de sécurité. Les États-Unis font pression là-dessus depuis des mois. Washington réclame des dépenses à hauteur de 5% du PIB consacré à la sécurité. À l'instant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, indique que l'Europe de la défense s'est enfin réveillé, je cite. Et puis un des enjeux de ce sommet, ce sera également l'aide à apporter à l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky est invité et il vient d'arriver sur place, Muriel Paradon.
Volodymyr Zelensky est reçu par le Premier ministre néerlandais à son arrivée à La Haye, ville où siège la Cour pénale internationale. La Russie doit rendre des comptes, rappelle le président ukrainien, alors que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crime de guerre. Volodymyr Zelensky est surtout venu plaider au sommet de l'OTAN pour davantage de soutien militaire. Mais il propose également l'aide de son pays en matière de technologie sur les drones.
La coproduction de drones est la priorité. Aujourd'hui, tout le monde sait que le niveau de technologie en Ukraine s'est amélioré drastiquement pendant la guerre. Nous avons ces technologies et nous voulons les partager avec nos partenaires pour sauver l'Europe, car la Russie travaille sur ces drones avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Nous devons travailler ensemble sur notre sécurité.
Les Pays-Bas et la France ont déjà annoncé leur intention de sceller des partenariats avec l'Ukraine pour la production de drones. L'Europe s'engage de plus en plus pour assurer sa propre sécurité, poussée également par Donald Trump, attendu ce mardi soir au sommet de l'OTAN. Le président américain que Volodymyr Zelensky espère rencontrer demain, après un rendez-vous manqué au G7 la semaine dernière, Donald Trump était parti prématurément.
Volodymyr Zelensky qui espère donc plus de pression sur la Russie alors que son pays a de nouveau été frappé aujourd'hui à Dnipro. C'est dans le centre-est de l'Ukraine. Le gouverneur fait état de 7 morts. Un message de terreur et de rejet de la paix selon Kiev. Des points de passage fermés à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Cela a été annoncé par Bangkok lundi soir dans 6 provinces. Donc il y a en ce moment des dizaines de personnes, des travailleurs ou des touristes qui sont coincés là ces dernières heures. Les deux pays sont à couteau tiré ces dernières semaines depuis la mort d'un soldat cambodgien lors d'un échange de tirs avec l'armée thaïlandaise dans une zone frontalière. Et cela sur fond d'un vieux différend sur le tracé de la frontière entre les deux pays depuis des décennies.
En France, le Premier ministre François Bayrou tente de reprendre la main sur le dossier des retraites.
Un dossier qui pourrait lui coûter son poste en cas de censure après 4 mois de négociations en conclave sur la réforme votée dans la douleur en 2023. Organisations syndicales et patronales se sont séparées hier soir sur un constat d'échec. Et François Bayrou y croit encore. Il reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux séparément à Matignon, où l'on vous retrouve, Charlotte Urien, Tomaka. C'est en quelque sorte une tentative de la dernière chance.
Oui, il a tiré sa dernière cartouche pour tenter de trouver une voie de passage sur cet épineux dossier qui pourrait donc lui coûter son poste à Matignon puisqu'une motion de censure pourrait peser au-dessus de sa tête très prochainement, car le Premier ministre l'a affirmé ce matin dans une prise de parole très matinale. Je le cite, il ne se satisfait pas de l'échec du conclave sur les retraites si près du but. François Bayrou a donc déjà reçu les syndicats CFDT, CFTC, CFE-CGC ce matin, syndicats qui estiment que l'échec de ce conclave doit être imputé au patron. Pour Marie-Lise Léon de la CFDT, cette réunion était un point de situation pendant lequel les syndicats ont pu faire état au Premier ministre de la liste des points d'accord et de ceux de désaccord avec le patronat qui ont été trouvés pendant ce conclave. Et ce qui en ressort de cette réunion à Matignon, c'est que pour le moment, ça coince toujours sur la pénibilité. Mais pour les syndicats présents, un accord est possible uniquement si les éléments pointés au Premier ministre sont modifiés. Depuis quelques minutes, c'est maintenant au tour du président du MEDEF, Patrick Martin, d'être reçu par le Premier ministre. FO et la CGT qui avaient quitté le conclave rapidement après le début des discussions n'ont pas été invités à se joindre à cette réunion de la dernière chance, ce que déplore Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Et ce midi, c'est le président de la République qui s'est aussi invité dans ces discussions, puisqu'en marge d'un déplacement en Norvège, Emmanuel Macron a plaidé pour un accord. On va l'écouter.
La négociation qui est en cours, je crois, est celle de femmes et d'hommes responsables, conscients du monde, de l'état du monde et de la nécessité pour notre pays d'aller de l'avant. Donc je les encourage ardemment à savoir aller au-delà des désaccords qui persistent et à trouver ensemble une solution qui soit bonne pour le pays.
Et le dernier entretien du jour à Matignon avec François Bayrou, eh bien ce sera à 20h avec le patron de la CPME.
Et on suivra ces réunions avec vous, Charlotte Urien, Tomaka en direct de Matignon. Le procès en appel de Boualem Sansal en Algérie. Le parquet a requis 10 ans de prison contre l'écrivain franco-algérien arrêté en novembre et objet d'une bataille diplomatique entre Paris et Alger. La Cour rendra son verdict le 1er juillet, donc mardi prochain. Au Royaume-Uni, le comité de sélection a tranché pour le futur mémorial de la reine Elisabeth II. C'est le projet de l'architecte britannique Norman Foster qui a été choisi. Il comprend une statue de la défunte reine à cheval et un pont translucide inspiré du diadème de mariage de la souveraine.
RFI Midi. Elle nous emmène en balade, la musicienne et chanteuse française Léonie Pernet.
De retour avec un troisième album, disque profondément inspiré par le Niger, où elle a récemment rencontré une partie de sa famille, mais aussi par la poésie de René Char. Son nouvel album s'appelle d'ailleurs « Poème pulvérisé », Lisa Giroldini.
Léonie Pernet n'a pas su choisir entre son amour du piano et celui pour les sonorités électroniques. Et heureusement, car son nouvel album entremêle les deux avec une belle cohérence. Sa musique mélange pop, électro, instruments classiques et percussions africaines. Le tout sublimé d'une orchestration hypnotique qui lui est propre.
«
Son voyage au Niger, pays de ses racines paternelles, a profondément marqué cet album, intime et politique. Au-delà d'une quête personnelle, Léonie Pernet appelle à la paix dans un cri d'espoir pour la réconciliation collective et la justice sociale, grâce à la force de la musique et de la poésie.
Qu'est-ce qui, au fond, nous empêche ?
Voilà, Léonie Pernet, c'était le choix musical de Lisa Géraldini.
Dans le journal de Charlotte Hydrac, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et les sports, c'est avec Olivier Pron. Bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
On commence avec le football et le mondial des clubs aux États-Unis. Le PSG est en huitième de finale.
Oui, après un succès pépouze, sans forcer, sans s'emballer. 2-0 face aux Sounders de Seattle. Un but par mi-temps, tranquille. Le deuxième est signé de l'inévitable Achraf Hakimi. Indiscutable prix Marc-Vivien Fauré. RFI France 24 2025. Son dixième but de la saison pour Paris. Pas mal pour un latéral droit. Un succès qui lance les Parisiens donc dans la phase à éliminer directe malgré la fatigue qui s'accumule à Achraf Hakimi.
C'est la Coupe du Monde, on sait que chaque match qu'on va jouer c'est plus difficile et on devait rester concentré de premier jusqu'à la fin et aujourd'hui on a montré les caractères et on a montré qu'on mérite de gagner. On a travaillé bien je pense, mais aussi la fatigue à la fin de la saison ça sonne, mais on est prêt, on devait continuer à travailler, récupérer bien et continuer pour la suite.
Et la suite, c'est dimanche à 16h, temps universel à Atlanta pour une place en quart de finale. C'est l'Inter Miami de Léo Messi que le PSG va retrouver. Miami qui a fini deuxième du groupe A après un nul de partout face au premier Palmeiras.
Les autres matchs.
Dans le groupe de Paris, c'est Botafogo qui finit deuxième après sa défaite 1-0 face à l'Atlético Madrid, qui est donc éliminé malgré tout. Enfin, nul spectaculaire dans la poule A. 4-4 entre les deux éliminés, Porto et le Al Ahly du Caire. À suivre aujourd'hui, Alban, dénouement de la poule C avec à 19h temps universel le Bayern déjà qualifié face au Benfica Lisbonne et Auckland Boca Juniors groupe D 1h temps universel Los Angeles contre les Brésiliens de Flamengo qui sont eux aussi déjà qualifiés et puis Chelsea Espérance Tunis encore en piste là les deux pour les huitièmes de finale.
Du rugby un anniversaire.
Oui, il y a 30 ans jour pour jour, le 24 juin 1995, l'Afrique du Sud remportait la Coupe du Monde de rugby sur son sol en battant en finale la Nouvelle-Zélande, grande favorite, 15-12 après prolongation. Au-delà du symbole que ce triomphe a représenté pour le pays dirigé par Nelson Mandela à l'époque, cette Coupe du Monde a été fondatrice pour les nombreux succès futurs des Springboks, Cédric de Oliveira.
Avant 1995, l'Afrique du Sud n'avait jamais participé à une Coupe du Monde. Alors au moment d'aborder la finale face aux All Blacks de l'impressionnant John Alomou, les Springboks n'étaient pas franchement favoris. Pour Bakary Meïté, ancien international ivoirien, ils ont donc réussi à inverser le rapport de force.
C'est la belle histoire, c'est un peu France 98, où tu te retrouves face au Brésil, la meilleure équipe du monde. Et ben, c'est un peu ça, les All Blacks qui dominent ce sport. C'est l'équipe la plus aboutie, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Et pourtant, bah, il tombe face à ce pays qui organise sa Coupe du Monde chez lui. C'était vraiment ça, ouais.
Cette finale contre des Néo-Zélandais décevants n'a pas été la plus enthousiasmante de l'histoire, mais elle s'est jouée en prolongation. Aucun essai. C'est grâce à un drop victorieux du demi d'ouverture Joel Stransky que l'Afrique du Sud s'est finalement imposée 15-12. Un succès inspirant pour les générations suivantes.
C'était un virage très important. Il y avait un côté très précurseur et ça a posé un jalon. Ils sont devenus une nation majeure de ce sport en étant le challenger numéro 1 des All Blacks. Le sommet aujourd'hui du rugby mondial, c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.
Après 95, les Springboks ont ensuite raflé les Coupes du Monde 2007, 2019 et 2023, encore une fois face aux All Blacks en finale. Aujourd'hui, avec 4 trophées, ils sont les plus titrés devant leurs rivaux néo-zélandais.
Wonderful moment for the whole of South Africa. Ouais, pour toute l'Afrique du Sud, c'était un grand moment. Cédric de Oliveira, un tout dernier résultat pour vous dire que Loïs Boisson, demi-finaliste du dernier Roland-Garros.
La révélation.
Quand on n'a jamais joué sur herbe, ça fait mal. Elle est éliminée dès le premier tour des qualifications pour le tournoi de Wimbledon, qui lui avait refusé une invitation pour le grand tableau. Battue en 3-7 par la Canadienne Bronstein.
Merci beaucoup, Olivier Pron.
RFI. Le Monde à midi.
Le Moyen-Orient a-t-il déjà été aussi instable ? Frappes iraniennes sur des bases militaires américaines au Qatar, annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, cessez-le-feu violé par Téhéran et par Israël selon Donald Trump. Ces dernières 24 heures ont été plus qu'agitées. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Jean-Loup Saman. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert associé à l'Institut Montaigne, chercheur senior à l'Institut Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour, spécialiste des pays du Golfe. Ces dernières heures, Donald Trump a pris tout le monde de court après ses frappes iraniennes sur la plus grande base américaine du Moyen-Orient, celle d'Al Udeid au Qatar. Il a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Qu'est-ce qui a pu se passer en l'espace de quelques heures seulement ?
Alors, ce que l'on a vu depuis l'annonce, c'est une recrudescence des frappes à la fois israéliennes et iraniennes. Donc, il semblerait que dès le début, on ait un peu du mal à voir si ce cessez-le-feu est tenable. Et on a vu Donald Trump déjà en moins de 24 heures s'énerver contre les deux parties. Ça, je pense, reflète aussi le fait que ce cessez-le-feu, il a été annoncé, comme vous l'avez dit, un peu à la surprise générale. Avec beaucoup de confiance de la part de Donald Trump, qui nous annonçait que c'était une guerre qu'on nommerait prochainement la guerre de 12 jours, donc qui se fait à la fois le médiateur et le prochain historien de la guerre. Donc, encore une fois, un cessez-le-feu qui, à mon avis, reste très fragile et qui est le reflet d'un conflit qui est beaucoup plus profond entre Israël et l'Iran.
Alors, cessez-le-feu très fragile, Donald Trump l'a donc annoncé ce matin. Ensuite, l'Iran et Israël se sont accusés de l'avoir violé. Donald Trump a confirmé le viol de cette trêve. Sauf que, il y a quelques minutes, Donald Trump a dit « ça y est, cette fois-ci, le cessez-le-feu est en vigueur ». Est-ce qu'on doit y croire ou pas ?
Disons que dans le sens où c'était il y a quelques minutes, il faudrait, je pense, attendre au moins 24 heures avant d'y croire complètement. Le problème, disons, au-delà du respect direct du cessez-le-feu, c'est que d'une part, on a vu notamment sur le dossier de Gaza que il y a eu des cessez-le-feu et des cessez-le-feu qui ont été violés et qui ont échoué. Il faut voir aussi, au-delà d'un simple cessez-le-feu, dans quelle mesure on peut découler sur une véritable résolution du conflit, parce que on n'a aucune idée sur les conditions à plus long terme de ce que Trump entend imposer à l'Iran, notamment sur son programme nucléaire, ou sur la coopération entre l'Iran et un certain nombre d'acteurs, notamment le Hezbollah, les Houthis, qui eux également sont encore un acteur actif pour frapper Israël. Donc il y a tout un ensemble d'incertitudes au-delà d'un simple cessez-le-feu qui plane encore sur le conflit.
Jean-Loup Saman, Donald Trump ne ferme pas la porte à de nouvelles frappes sur l'Iran. Tous les objectifs de la guerre ont été atteints, dit-il, mais il promet de riposter en cas de nouvelle attaque. Les objectifs ont-ils vraiment tous été atteints? Quelques heures avant le bombardement américain sur Fordo, on a vu partir en convoi des dizaines de camions. Est-ce que vous pensez que les réserves d'uranium qui se trouvaient sur le site ont été déplacées?
Alors, je serais bien en peine d'être, disons, affirmatif sur cela. Ce que les Américains affirment à ce stade, c'est que une partie de l'uranium enrichi n'aurait pas été déplacée. Je pense qu'il va y avoir une bataille dans les jours à venir en termes d'évaluation des dommages causés. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas juste en cette frappe, disons cette campagne aérienne, quand bien même elle était impressionnante, que les Américains ont oblitéré, comme le président Trump le disait, l'ensemble du programme nucléaire iranien. Disons que le programme, il ne disparaît pas simplement en ces frappes. Ce qui va être l'objet de débat, c'est de savoir jusqu'à quel point il a été retardé. On parle de quelques mois, voire quelques années, si ces frappes ont été très fortes. Mais en tout cas, les objectifs tels qu'ils ont été formulés, ils n'ont pas été, disons, totaux, ils n'ont pas, disons, été absolus à ce stade.
Et on parle même maintenant d'un quatrième site nucléaire, site que les États-Unis auraient, entre guillemets, oublié. Il se situerait encore plus profondément que celui de Fordo, peut-être à 140 mètres de profondeur. Pourquoi les États-Unis, enfin, déjà, est-ce que les États-Unis étaient au courant de l'existence de ce site, s'il existe vraiment ?
Disons qu'il y a toujours eu des soupçons de. On parle de Fordo. Il faut pas oublier que Fordo était un site qui a été révélé au grand public en 2009 et qui était justement un site qui était clandestin, qui n'avait pas été dévoilé par l'Iran. L'AIEA dans ses rapports a toujours émis des réserves sur sa capacité à confirmer la transparence de l'Iran sur l'ensemble de ses sites. Donc on n'est pas effectivement à l'abri de sites ou de matériaux que l'Iran aurait caché aux inspecteurs de l'AIEA. Donc au-delà de ça, après, Trump reste dans l'idée qu'il peut imposer un accord avec l'Iran. Donc je ne suis pas certain qu'il ait à ce stade le souhait de désintégrer l'ensemble du programme. Je pense qu'il il a avant tout envie d'imposer un accord à l'Iran.
Merci beaucoup Jean-Louis Saman. Je rappelle que vous êtes expert associé à l'Institut Montaigne, chercheur senior à l'Institut Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour, spécialiste des pays du Golfe. Elle est surnommée la vallée de la misère au Brésil, dans le nord de l'état du Minas Gerais. La vallée de Jequitinhonha s'étend sur 50 000 km² le long du fleuve du même nom. Elle est connue pour son climat aride, ses populations rurales. La pauvreté y pousse une partie des habitants à émigrer, mais c'est sans compter sur l'incroyable richesse de l'artisanat de la région réalisée par ces femmes. Brésil, l'artisanat, planche de salut pour les femmes de la vallée du Jequitinhonha. Un reportage de Sarah Cozzolino, on en écoute un extrait.
Fileuses, tisserandes et brodeuses se réunissent dans le village de Tocoyos-Jimin à son rythme d'anciens cantiques. Les fileuses de coton sont disposées en cercle dans un grand hangar aux murs blancs et fenêtres bleues. Tionil a appris à filer le coton quand elle avait 6 ans, d'abord manuellement avec une quenouille, puis à l'aide d'un rouet à pédales tout en bois. D'abord, j'ouvre les fibres de coton emmêlées, puis je pince ici et je pédale. Petit à petit, le fil s'enroule autour de la bobine. Et quand elle est remplie, je change de bobine. Et c'est comme ça que ça marche. Au fond du hangar, quelques métiers à tisser de différentes tailles. Lunettes sur le nez et débardeur fleuri, Maria Emilia da Silva, plus connue comme Mila, a les mains pleines de fils.
Je suis en train de positionner les fils sur le métier à tisser pour commencer une nouvelle pièce.
Ça va être pour faire quoi ?
Un tapis pour le salon, avec 90 cm de largeur et 1,65 m de longueur.
1,65 m de comprimento.
À 70 ans, Mila fait partie de l'association des fileuses et tisserandes de Tocoyos depuis 25 ans.
Aqui eu faço um pouco de tudo, eu sei fiar, eu fio, teço, ajudo elas a armazenar.
Ici, je fais un peu de tout. Je sais filer, tisser, je les aide à préparer les fils sur le métier à tisser. Je fais partie du groupe qui fait les teintures naturelles du coton, en préservant la nature et la richesse de notre terre. Je suis aussi professeur de tissage dans un autre village, à 1 heure d'ici. Pour moi, c'est quelque chose de très enrichissant. Je suis passionnée par ce que je fais. Quand je commence à tisser, que j'imagine cette pièce et que je la vois prendre forme sous mes yeux, je me rends compte que c'est un art et ça me rend heureuse. Quand j'ai fait la teinture de ce fil que vous voyez, je voulais qu'il soit vert kaki et j'ai réussi.
Pois eu consegui fazê-lo camuflado.
Como é que vous avez réussi cette teinture?
Eu peguei a casca da árvore da manga.
J'ai pris de l'écorce de manguier et je l'ai mise à tremper avec un autre produit naturel, extrait des cendres. J'ai laissé ça infuser 3 jours, puis j'ai pris de l'écorce d'un arbre à goyave et j'ai fait bouillir le tout avec le coton pour que les pores s'ouvrent.
Et la version intégrale de ce grand reportage signé Sarah Cozzolino est à écouter sur RFI à 19h40 ou 21h40 heure de Paris ou en podcast sur le site de RFI.fr ou l'application Pure Radio. Restez avec nous sur RFI. Dans moins d'une minute, ce sera Afrique Midi avec Nicolas Sur et on parlera notamment du procès en appel de Boualem Sansal en Algérie. Restez avec nous.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Ils étaient cinq jeunes ce 28 septembre 2009 à Conakry pour réclamer la démocratie quand la répression policière s'est abattue sur eux. L'un meurt, les autres sont brisés. Birgilsa Diallo raconte leur parcours dans Transhumance, un roman intime sur les violences politiques.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h31 sur RFI.